Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé Dominique, avec nous au micro, et de l'ami fidèle
Laurent,
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent.
Il est des hommes, des artistes qui façonnent l'histoire de l'art avec leurs mains, leurs regards et leur espoir. Des grottes de la préhistoire aux graffitis sur les murs, ils imprègnent leurs marques, leurs pensées. Le Titane Mag est allé non pas dans une grotte, mais presque, dans l'atelier de Jean Murat à Waron. Nous avons parlé peinture, bien sûr, mais aussi philosophie, civilisation et art contemporain. Je vous propose d'écouter cet entretien avec un homme rare, cultivé, modeste et talentueux. Titane Mag, en direct de l'atelier. Bonjour Jean Murat, nous sommes à Waron, dans votre atelier, qui est un garage, et cela a beaucoup d'importance pour vous.
Oui, bien sûr.
Pourquoi ?
Bonjour d'abord. Et puis, parce que ça correspond à une démarche que j'ai, qui vient... Bon, les hommes préhistoriques faisaient un travail sur les murs, étaient en contact direct donc avec l'univers qui était derrière ce mur. Et quand je suis dans ce garage, qui est un petit peu tout l'entourage est sombre, sauf dans le garage lui-même qui est l'atelier, où il y a un éclairage, mais j'ai un peu l'impression d'être comme les hommes préhistoriques au fond d'une grotte. Quand on voit la disposition, on a bien un peu cette impression. Et donc, de repartir aux fondamentaux, et se poser à peu près les mêmes questions qu'eux, parce que même si notre civilisation a beaucoup de moyens, qu'elle utilise parfois très mal, elle a les mêmes problèmes que les hommes préhistoriques, avec peut-être un petit peu plus de temps pour s'en sortir, mais on peut toujours se poser la question, les hommes préhistoriques se la posaient, est-ce qu'on est capable de poursuivre l'aventure humaine devant l'inconnu ? Alors, oui ou non ? Et là, c'est exactement ce que je fais un petit peu, c'est un peu le fond de mon travail, c'est de continuer l'aventure humaine, d'ouvrir sur d'autres choses, de prendre donc des dimensions autres que celles qu'on a en ce moment, qui écrasent un peu l'imaginaire, le rêve, l'utopie même.
Et justement, votre aventure, comment a-t-elle commencé au départ ? Le déclic, la peinture, comment cela est-il venu ?
Oui, j'ai peint à partir de l'âge de 6 ans. J'avais une bande dessinée de Tarzan. Sur une route, c'est à la campagne, il y avait une route qui faisait à peu près 2-3 mètres de large. Et là, je dessinais la tête, le buste. Mais la tête, je la tournais comme les Égyptiens. On a le buste de face, la tête de profil, ça me convenait bien pour faire ça. Puis les jambes, je me débrouillais comme je pouvais, j'étais pas très à l'aise. Mais petit à petit, ça a commencé comme ça. Et après, quand j'étais vers 10-12 ans, je dessinais la perspective, j'étais tout à fait à l'aise. Alors, des amis s'envoyaient parfois, ou d'autres. Il y en a qui savaient faire aussi, mais enfin, en faisant des tas d'autres choses, petit à petit, je peignais sans arrêt. C'était pas le principal de ma vie. C'était faire des études, travailler après, faire différentes choses. Puis un jour, en 77, j'ai arrêté tout et j'ai dit, maintenant, je ne fais plus que de la peinture, en sachant pas où j'allais. Parce que je voulais être libre. Arrivé à un moment donné, on se rend compte, quand on a avancé dans la vie, on est plus sensible, ou on comprend mieux ce qui va se passer, ou on a un petit peu d'expérience. Et à partir de ça, j'ai dit, partons à l'aventure, on verra bien. Ça s'est fait comme ça. Alors tout le long, ce qui s'est passé, c'est que c'est souvent un non. Je disais non à certaines choses, sans trop savoir pourquoi je disais ce non. Et cette sorte de révolte contre... Pas de révolte dans le sens où j'allais partir avec un fusil, je sais pas, et simplement dire non aux choses, que ce soit à l'école, j'ai dit non. À un moment donné, je voulais plus continuer. J'avais fait un collège technique. J'avais passé les CAP dessin, BUI d'ajusteur. Et là, je devais travailler en usine. Non, j'avais pas envie. Les usines que j'avais vues, ça me disait rien. Je suis parti dans la marine, comme ça. Et dans la marine, je prépare l'école navale. Et là, le jour du concours, je fiche le camp, je laisse tout tomber, alors que des officiers me disaient allez-y, faites du bon boulot, tout. J'ai tout laissé tomber, j'ai eu un sentiment de liberté énorme ce jour-là. J'avais 22 ans. J'ai dit, même après, j'ai eu cette sensation de liberté, mais ce jour-là, j'ai vraiment senti une très grande liberté en moi. Et donc, je peignais à droite, à gauche, comme ça, j'ai continué. Et puis après, j'ai travaillé en usine. À nouveau, je me suis retrouvé là, parce qu'à force de dire non, évidemment, il y a des moments où on risque de se finir complètement isolé. Mais j'ai continué à dire non, et puis en usine, après j'ai préparé la fac, j'avais envie de connaître autre chose, surtout sur le plan littéraire, par exemple. Et puis après, sur l'art aussi. Et je peignais encore à côté, des gens me demandaient une toile, alors je faisais une toile dans un coin. Et puis un jour, j'abandonne tout, Et c'est là où j'ai pris un travail qui me permettait d'être à la maison et de faire comme je voulais. Et même, j'ai continué en informatique, j'avais commencé à travailler en informatique, mais ça me suffit, j'avais pas envie d'aller plus loin, parce que c'est quand même, le site que vous avez vu, c'est moi qui l'ai construit, je veux dire que ça prend beaucoup de temps.
Et à partir de 77, donc, vous pouvez vivre de la peinture ?
Non, pas du tout, je m'étais donné 12 ans. Pourquoi 12 ans ? C'est une anecdote. Pour un éléphant, il lui faut 12 ans pour apprendre à porter une bille de bois. Alors, ça n'a rien à voir, mais j'avais vu ça. J'ai dit, je me donne 12 ans, on verra bien. Puisqu'on part au hasard, puisqu'on part à l'aventure, autant partir vraiment jusqu'au bout. Et au bout de 12 ans, ça marchait. Je veux dire que j'avançais dans mon travail. Seulement sur le plan économique, je n'avais pas trop réalisé. Il y avait toujours une crise ou de ci ou de ça. Ce qui m'a un peu sauvé, c'est qu'au CNED, il y avait des cours de français, d'histoire de l'art, de géographie. Je faisais tous ces travaux-là. Ça me laissait très libre en travaillant l'après-midi, disons voir, à peu près, pour 4-5 jours par semaine. Ça me laissait tous les matins et longs moments pour pouvoir peindre et tout ça. Pour pouvoir chercher, comprendre comment la peinture existait. Puis il y a beaucoup d'erreurs aussi, on trompe souvent. Donc c'est parfois comme ça un petit peu que petit à petit ça s'est mis en place. Parce que j'avais ces cours à côté, cours par correspondance que je corrigeais et qui me permettaient d'être libre.
Et vous aviez une crainte de partir comme ça dans le non, ou bien ça vous a forgé l'esprit, la pensée? Alors, et la main, qu'est-ce qui menait l'un ou l'autre?
C'est-à-dire que le nom, c'était plutôt, c'est intuitif, ça n'avait rien de construit vraiment. Et puis c'était un nom qui était pour aller vers un oui. C'est-à-dire qu'il y a un côté nietzschéen dans cette affaire-là. Enfin bon, toute proportion gardée. Le oui, c'est le oui à l'excès de vie, c'est le oui à une force de vie. C'est ça qui m'intéressait en définitive. Le nom, c'était un peu pour prendre de la distance par rapport à la société. Et dans l'art, je me suis... partout, il y a une contrainte sans arrêt. Je voulais échapper à cette contrainte pour essayer de penser, c'est un grand mot, mais de voir les choses autrement.
Vous parlez beaucoup de philosophes. Vous avez fait de la philosophie?
Non, mais j'ai lu énormément de philosophie. Je ne voulais surtout pas rentrer. Les hasards ont fait que j'ai travaillé au centre de recherche sur l'imaginaire, que je préparais ma thèse, et que là encore, j'ai dit non. Malgré la prof qui s'occupait de moi, me disait, mais il faut continuer. J'ai dit non, j'arrête. J'avais déjà commencé à peindre et j'ai fait un colloque où je présentais mes travaux aussi, puisqu'on travaillait sur les recherches sur l'imaginaire. Donc là, moi, je m'occupais de peinture, d'autres s'occupaient de poésie ou de textes de toutes sortes. Et moi, je m'occupais de la peinture, montrer les problèmes de symboles, les problèmes où travaille l'imaginaire. Par exemple, sur le Tintoret, qui était un de mes maîtres, c'est celui qui m'a poussé à aller plus loin.
Est-ce qu'on peut savoir, par curiosité, vos philosophes préférés?
Il y a Spinoza, il y a Nietzsche, Bergson. Deleuze, que j'aime beaucoup, puis beaucoup d'autres, j'en ai lu pas mal pour avoir le surnom. Lucrèce aussi, des gens comme ça. Je veux dire qu'il y en a certainement d'autres, Clément Rosset par exemple, des gens comme ça. Donc oui, j'aime beaucoup la philo, mais en même temps, pas dans le contexte universitaire. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Audi. Audi, qui est un philosophe contemporain et qui fait des analyses de l'art, sur Créé par exemple. Ça, c'était fort intéressant. Même, ça soutient un petit peu. C'est quelqu'un qui est en dehors de l'université. Enfin, il y a été, puis c'est maintenant, je ne sais plus comment il fonctionne, mais il fait ses bouquins et ça lui permet de... Je vais chercher plutôt vers les marges. Mais ça, pour ouvrir la peinture, parce que si on veut créer quelque chose un peu nouveau, je ne sais pas si j'y arrive, ça, alors là, j'ai des doutes terribles. Si on veut créer quelque chose de nouveau, il faut un peu se décaler, sans renier ce qui a été fait, mais au contraire même. Moi, je repars des anciens, des gens qui m'ont influencé. Je vous disais, il y a Tintoret, il y a les Égyptiens aussi, il y a la préhistoire. Et puis si on remonte, des gens comme Poussin aussi, Rembrandt, Goya, Michel-Ange, des gens comme ça. Tout à l'heure, je parlais justement de ces dessins que je faisais quand j'avais 6 ans. C'était à partir des dessins de bande dessinée. Le dessinateur de cette bande dessinée se servait beaucoup de Michel-Ange pour faire Tarzan. Ça m'a influencé parce qu'on retrouve dans les personnages que j'ai, on retrouve un petit peu le corps de Michel-Ange, enfin le corps des peintures de Michel-Ange. Ces personnages un petit peu costauds, mais sous la pression. Ils sont forts, mais en même temps, il y a une pression. Quand on voit le Jugement dernier, il y a des personnages, le Christ est... C'est un homme qui est costaud.
C'est musclé.
Musclé, oui. Musclé. Et qui, en même temps, ils sont sous une pression énorme. de la vie, de tout, de la religion dans ce cas-là, de tous les ordres sociaux. Donc il faut être musclé pour résister. Bon, alors, c'est un choix que j'ai fait personnel, bah, maintenant. Simplement, voilà, ça vous donne un peu quelques éléments. En peinture, si dans l'art contemporain, il y avait Matisse aussi, même Picasso dans ses... Et puis d'autres... bon, alors actuellement, il y a des gens comme Holland, pas Orlan, qui est une peintre qui fait des performances et qui, par exemple, se découple, se met des bosses sous le crâne, enfin sous la peau du crâne, enfin des choses comme ça. Holland est un peintre hongrois qui fait des choses plutôt très intimistes. Alors vous allez dire, quand vous faites ça, c'est pas très intimiste. Mais si, il y a quand même cet élément, je suis très sensible à des choses où il y a peu de choses qui se passent, où il y a une frugalité, j'allais dire. C'est pas toujours que ça existe dans ma peinture, mais ça dépend. Il y a des moments... celle-ci, ça va plus vers une réduction, un petit peu.
Alors, parlons un petit peu de, puisqu'on est au milieu de vos tableaux, là, les thèmes de vos tableaux. Quelle est votre vision de votre propre art?
Alors, ce qui se passe souvent, c'est que je mets beaucoup d'hommes et de femmes dans mes tableaux. Souvent, je reprends même des personnages, des postures. J'aime bien travailler sur le corps humain. C'est parce que, alors ça, c'est une réflexion personnelle, les changements de civilisation se font aussi dans le changement de la représentation du corps humain. Quand vous passez de l'Égypte à la Grèce, ou après quand vous passez de la peinture gothique à la Renaissance, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des changements, dans le changement de civilisation, changement de la représentation du corps humain. Et quand vous passez de la Croix à Picasso, et puis à ce qui se passe en ce moment, vous voyez qu'il y a encore des changements de civilisation, des transformations de la représentation du corps humain. Et c'est pour ça que je travaille sur ce corps, pour essayer de trouver autre chose, voir. Alors, j'ai d'autres amis qui peignent aussi dans leur coin, et puis qui essayent de retrouver un petit peu d'autres, retrouver l'humain, pour le remettre au centre du débat général. Alors, je sais pas si on y arrive beaucoup. Ça, en ce moment, il y a aussi, j'ai différents thèmes, toute une série sur les chaos, là, sur la derrière, je pourrais vous les montrer. Et donc, il y a toute cette série, il y a aussi sur des paysages. J'en ai fait pas mal, qui sont toujours dans mon le corps humain qui réapparaît, sur ce que je vous montrais tout à l'heure. Vous avez homme-femme toute seule ou homme tout seul. Là, vous voyez, il y a ce type de personnage se retrouve. Voilà, ce genre de plis, par exemple, j'adore aussi dessiner les plis.
Alors, ce tableau s'appelle Incidence,
oui.
Et on voit un homme. Essentiellement, c'est le buste avec un bras, un peu de côté, le bras tendu et la tête. Et donc sur une forme de paysage sur le fond. Parce qu'on a la radio, donc il faut qu'on décrive un petit peu ce qu'on voit. Donc par rapport à ce tableau, Incidence, quelle incidence?
C'est l'incidence. Bon, alors j'ai mis ce titre sans savoir. Alors là, j'y vais tranquillement. Je mets un titre qui vient comme ça. Je fais quelques textes, quelques poésies, comme ça, dans un coin. C'est souvent des mots. Comme je cherche l'énergie, je vais rentrer dans un autre domaine. Les couleurs, si vous voulez, ici, elles ont une énergie. Chacune, le rouge a une énergie, le bleu a une énergie. Quand on les met ensemble, ça donne quelque chose d'autre. Donc, je me sers de tous ces éléments-là. Alors, dans la poésie, j'essaie de trouver l'énergie des mots. Et là, dans les titres de mes tableaux, ça vient comme ça, incidence. Alors, pourquoi? Ça, j'en sais rien.
Le tableau fini, vous trouvez le...
Oui, ou parfois en cours de route, je le fais, et ça se passe comme ça. Bon, alors, je le garde. C'est vraiment l'inconscient qui travaille, assez libre devant ce genre de choses. À côté, il va y avoir un travail de construction qui est complètement, j'allais dire pas objectif, mais très tenu. Là, par exemple... Ce pont, c'est un pont de Maillard. J'ai introduit ce pont dans le... C'est quelque chose de très rigoureux. Comme ici, c'est des restes au CERN, quand ils font leurs exercices, j'allais dire, sur des cibles pour trouver les éléments de la matière. J'ai repris ça sur une revue scientifique. Alors là, on est dans quelque chose de très précis. Donc vous avez une énergie ici, puis vous avez d'autres énergies ici. Donc le titre de l'incidence, là, est donné comme ça. Bien souvent, je ne suis pas capable de le justifier. Parce que ça vient d'autre chose de moi dont j'ai pas la maîtrise.
Couleur FM 97.1 avec Jean Murat. Nous venons d'entendre Thelonious Monk au piano et John Coltrane au sax ténor dans Epistrophe.
Quand vous commencez un tableau, vous avez déjà une idée de ce que ça va être ou ça se construit au fur et à mesure?
Ça se construit au fur et à mesure. Je ne sais pas où je vais. Puis petit à petit, il y a quelque chose qui va prendre un peu plus de densité. Et à ce moment-là, je vais m'accrocher à ça pour essayer de sortir du chaos où je viens.
Vous ne faites pas un dessin avant?
Non, rarement. Ça m'arrive parfois de mettre 2-3 traits, puis je les oublie, et puis c'est au fond d'un carnet. C'est bien souvent le matin, je fais des petits travaux où j'essaie de faire jamais le même travail. Par exemple, vous avez ici... c'est complètement... Je ne sais pas où ça va. Vous avez un personnage qui apparaît alors que c'était un chaos complet au départ. C'était un chaos complet, et en dessous, voilà, je fais ça, j'essuie mon pinceau. Et à partir de ça, je conçois quelque chose, il faut que ça soit tout le temps différent. J'en ai fait plus de 500 ou 600.
Est-ce qu'on pourrait comparer ça aux gammes que fait le pianiste le matin, aux vocalistes que la chanteuse fait avant le concert?
On pourrait d'autant plus le faire que dans mon travail, si vous voulez, les couleurs, c'est la musique, et les traits, comme ça, c'est la voix. On peut le dire comme ça. Alors ça sert effectivement le matin quand je fais ça. Alors je me perds complètement, mais c'est pas grave. Hein, comme on fait des vocalises, comme on joue, on s'entraîne le piano. Il y a des fois, bon, c'est pas toujours juste, c'est pas toujours parce qu'on a voulu aller un peu plus vite, on s'est enfoncé. Ça apprend quand je fais ça, ça apprend à pas avoir les limites, mais à voir où on peut aller, et puis à chaque fois aller un peu plus loin, et puis avancer dans l'inconnu, quoi. Bon, parce que là. Pour le moment, ça ne tient pas trop, je ne sais pas ce que ça va faire. C'est certain que peut-être je ferai autre chose, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer sur ce petit dessin qui est fait comme ça. Travailler à l'encre là-dessus, c'est de la craie. Alors la craie, elle fonctionne, ça vient boucher le porte-plume ou la plume, donc ça déraille complètement. Et il faut accepter ça pour se construire soi-même. Et après, être à l'aise devant, quand on fait une très grande toile, là aussi je sais pas où je vais, mais il faut quand même assurer certaines choses. C'est comme en alpinisme, c'est pareil, vous êtes obligé d'assurer à un moment donné des éléments.
Et vous travaillez avec de l'acrylique, hein?
Oui, bah, c'est acrylique, et c'est plutôt technique mixte, on appelle ça comme ça en principe. Alors c'est de l'acrylique parce que ça me convient. Bon, ça sèche assez vite, ça me permet de retravailler dessus, voire de l'effacer s'il faut, alors qu'avec l'huile on a quand même un certain temps pour pouvoir repartir après dessus, même si on peut le faire aussi, mais enfin là, bon, c'est un choix. Ça me permet de travailler donc ces énergies comme j'ai envie de le faire et de donner une tenue à tout le tableau.
Alors il y a aussi le travail de la matière avec un instrument de bricolage, avec une meuleuse aussi.
Oui, c'est une disqueuse aussi, une meule. C'est-à-dire quand je construis, je commence un tableau, je vais faire complètement, par exemple celui-ci il tient pour le moment, mais un jour par exemple ce tableau, ça va pas aller. Non, ça s'est déjà passé avant. Pour le moment, il va. Alors, je vais pas y toucher. Mais il se pourrait très bien que je passe dessus avec la disqueuse et dans différents sens et que ça va créer un rythme de fond. Mais c'est une sorte de matériau sans organisation. Ça, c'est important. C'est de se retrouver devant un matériau brut comme ça, qui a énormément de potentialités. Et ça, le peintre ou le musicien ou l'écrivain, s'il a un matériau brut comme ça, où les potentialités sont énormes, il va pouvoir les capter et alimenter sa sensibilité. Et après, il pourra construire quelque chose.
Et quand pensez-vous que votre tableau est terminé? Ou bien il ne l'est jamais?
Quand, par exemple, si je prends celui-ci, j'arrive à un moment où j'ai plus envie d'y mettre quoi que ce soit. Alors si, par exemple, il y a un endroit, il est exposé en ce moment au musée de Grenoble, à l'ancien musée de Grenoble, j'avais donné un thème, le lien. Donc, à un moment donné, je l'avais ici, j'ai dit, mais il manque un tout petit peu quelque chose pour que le lien entre les deux personnages se fasse. Alors, personne ne s'en rendait compte. Ma femme a regardé, je lui ai dit, tu as vu comme, elle n'a pas bien vu sur le coup. Bon, c'est vrai qu'elle ne l'a pas tout le temps devant les yeux. Et puis, après, je lui ai dit, ben là, tu vois, j'ai changé. Alors, je lui ai dit, voilà l'ancienne photo, voilà la nouvelle. Et donc, c'est assez rare. Une fois que j'ai trouvé ce qu'il y avait en place, que ça allait, je ne touche plus. Et souvent, s'il y a bien, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il y a quelque chose qui passe.
Et vos supports sont de tout matériau et de grands supports. Vous aimez travailler grandes surfaces.
Oui, ça c'est ça c'est le fantasme complet, c'est de peindre le ciel, quoi. Bon, dans les rêves fous, quoi. Bon. Si, c'est ça, parce que l'humain est là un petit peu pour transformer le monde où il est. Alors le problème, c'est de rester en équilibre avec ce monde. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Entre nature et culture, il faut trouver un équilibre. Entre spiritualité et matérialité, il faut trouver un équilibre. Alors, on a un corps, il faut l'assumer. Et en même temps, on a un esprit qui peut nous porter très loin aussi. Donc la peinture fait ce... Ou les artistes font ce travail-là. Même dans l'art contemporain, je le critique bien souvent, pour toutes sortes de raisons. L'aspect mortifère, ou j'allais dire parfois l'aspect un peu débile, hein, faut aller au bout. Les coups, c'est quand même pas terrible. Mais il y a quand même des choses. On sent que chez les artistes, tous les artistes essayent de trouver autre chose. Alors ils se laissent prendre par. Ce qui est difficile, c'est de prendre un peu de distance. Très difficile, parce qu'on est marqué par des tas de choses.
Alors justement, dans vos textes de 2013, l'autonomie et la forme. Vous parliez de l'évolution de l'art. Vous dites qu'aujourd'hui, le but principal des artistes est d'être le plus original ou le plus excentrique possible. Alors du coup, le spectateur a du mal à suivre, à accéder, à comprendre, d'où les œuvres deviennent mortifères. Comment vous envisagez l'art aujourd'hui et quelle est votre vision de l'art? D'abord sur cette vision de l'art, on va dire... politique actuelle
oui.
et votre propre vision de l'art.
C'est la question d'autonomie de la forme est primordiale. Ça ne m'est pas venu tout de suite. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps pour se rendre compte. C'est assez bête parce que si on regarde bien, l'exemple, j'ai au moins deux exemples à vous donner. La perspective, par exemple, elle existe depuis 35 000 ans. Quand vous regardez les animaux qui sont décédés et qui sont en profondeur, là, il y a un premier animal, l'autre qui est derrière, le troisième qui est un peu plus loin, et brusquement vous avez comme... Et ça vous le retrouvez chez les Égyptiens, où ils n'avaient pas la perspective avec point de fuite. Ils mettaient les personnages les uns derrière les autres, comme s'il y avait un stade, et puis l'autre personnage est derrière et un peu plus loin, et puis ainsi de suite, et au moment où vous vous dites, ben, il y a une sorte de profondeur. Un autre exemple, c'est la lumière et l'ombre. Vous prenez le baroque, c'est lumière et ombre. Bon, vous prenez le romantisme, c'est lumière et ombre. Mais vous avez déjà deux idéologies différentes. Dans le premier, c'est l'Église qui veut reconquérir, puis elle faisait de la publicité avec le baroque. Alors donc il fallait que ça soit très marquant, ombre et lumière, contre le protestantisme. Vous prenez le romantisme, il y a l'ombre et lumière, mais c'est l'ombre soit de la révolte, soit de la dépression, qui existe dans le. Si vous prenez, puis il y a une lumière, on voudrait trouver un autre monde. Et puis si vous prenez le cinéma contemporain, prendre Orson Welles, vous avez ombre et lumière aussi, on est encore dans une troisième idéologie, une troisième façon de voir les choses. Et donc la même forme est utilisée par trois idéologies différentes. Ça lui donne, à ce moment-là, vous comprenez, qu'elle est autonome. Et que vous prenez un rouge ou un bleu, ou vous prenez un caillou, vous en faites ce que vous avez envie d'en faire. Et là, l'idée, c'est que, je reviens toujours à cette chose, c'est que quand on a compris un petit peu ça, qu'on a l'autonomie un petit peu, ça va permettre d'avancer... d'ouvrir sur autre chose. Je ne sais pas si ça marche à tous les coups, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Mais ça donne une liberté qui, à ce moment-là, va vous permettre, pour l'artiste, s'il a une petite expérience de vie, peut-être de trouver un sens. Bon, disons-le comme ça. Maintenant, est-ce que j'y arrive ou j'y arrive pas, ou les artistes y arrivent ou n'y arrivent pas, c'est autre chose.
Et quel est votre sens, alors?
C'est justement d'essayer de poursuivre l'aventure humaine. Ou d'affirmer la vie comme victoire provisoire sur la mort. Ça, c'est... J'en sors un petit peu. C'est un petit peu du côté de Nietzsche. Ça.
Alors justement, qu'est-ce qui fait que l'artiste pourrait être celui ou celle qui se projette suffisamment en avant pour voir un petit peu en avance sur ses contemporains?
Il faut emprunter à l'époque suivante. Et emprunter à l'époque suivante, je pense que... Bon, c'est un petit peu... Je reprenais l'exemple de l'escalade. Dans les années 1920, ou peut-être même un peu plus tôt, ils avaient un certain niveau. Pour passer au niveau au-dessus... Il fallait anticiper, il fallait dire est-ce que la prise c'est possible ou pas possible. C'est-à-dire qu'il faut aller déjà dans l'avenir pour s'engager, pour aller chercher une prise qui est difficile. En art, c'est pareil, pour aller chercher une prise difficile, à un moment donné, l'inconnu, j'y vais. Après, il y a différentes situations. Moi, c'est ma position. Il y a d'autres artistes qui, eux, préfèrent. Puis il y a différentes formes d'art. Hein, si on fait du design, si on fait différents. Ou de l'art contemporain, il y a des différentes façons de faire. Mais mon idée, c'est d'essayer d'ouvrir les choses. Je ne sais pas si j'y arrive ou si j'y arrive pas. D'ouvrir, donc, d'essayer de se projeter un petit peu. Bon, alors, ça peut marcher, pas marcher. Quand je regarde ça, je n'ai pas l'impression que je joue grand-chose.
Dans cette volonté que vous avez d'ouvrir un petit peu les horizons, est-ce que la peinture en particulier a un rôle spécifique par rapport à d'autres moyens de s'exprimer?
Oui, alors la peinture, c'est le silence, la méditation. Ouais. Tout est donné d'un coup. Dans la peinture, bon, à part si elle fait 50 mètres de long, bon, évidemment, tout ne va pas être donné d'un coup, quoi, en prenant du recul. Mais bonne idée, c'est que vous avez la photographie qui a aussi cette possibilité où tout est donné d'un coup. Et ça pose une autre réflexion. Mais je veux dire que c'est le problème, c'est que quand je fais ça, par exemple, quand j'essaye de dire que tout est donné d'un coup, il y a aussi les questions du temps derrière. Mais bon, il y a une temporalité qualitative et une temporalité quantitative. Et la peinture joue là-dessus, puisque tout est donné d'un coup, ben, on voit il n'y a plus qu'un seul temps. Si vous êtes devant une sculpture, vous êtes obligé de tourner autour, donc le temps, c'est un temps quantitatif. Pour mettre la musique, c'est pareil, un roman, vous êtes obligé de lire, d'écouter tout le morceau pour bien sentir tout ce qu'il y a et tous ces éléments-là.
Par contre, ça échappe quand même à l'évolution de tout ce qui est informatique, Internet, la peinture. Il faut se déplacer pour la voir, je veux dire. Ou alors, bon, on peut regarder aussi ça sur Internet. Mais
oui, bien sûr, Internet, ça fausse.
Voilà, il faut se déplacer pour la voir.
Ah oui, oui. Alors ça c'est important parce que, justement, la peinture, enfin bon, on peut, comme vous dites, le passer sur Internet. Moi, ce que je fais souvent, je vais voir un peu ce que d'autres peintres font sur Internet. Mais je suis persuadé que je ne vois pas comme il faut la toile. C'est la dimension, si elle est petite ou si elle est grande, vous n'avez pas la même réaction. Moi, je suis pas contre Internet, les ordinateurs, j'en fais suffisamment comme ça à mon petit niveau. Pour soit des sites que je monte, soit d'autres choses que je construis. Mais ce qu'il y a, c'est autre chose. C'est vraiment, dans la peinture, c'est le corps qui est présent. Et c'est le geste, c'est quelque chose de physique. Dans tous les arts, même l'écriture est physique, quelque part. C'est pas parce qu'on est immobile, mais c'est tout le corps qui porte le texte, le sens de ce texte et tout ça.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler du rapport peintre-spectateur? La communication, alors, le partage, tout ça.
Parce que, justement, dans l'art contemporain, parfois, le spectateur est un petit peu... Il se demande où il est. Et quand il sait ce qui se passe, parfois, il est complètement déçu. Parce que, bien souvent, c'est une banalité sociologique qui va être mise en place. Bon, j'ose le dire comme ça. Et dans la peinture, c'est les anciens qui m'ont appris. À un moment donné, bon, là, vous ne savez pas ce que j'ai fait dans la toile, mais vous pouvez vous raccrocher au rouge, vous pouvez vous raccrocher à ce pont, vous pouvez vous raccrocher à ça... Bon, moi j'ai emmené des adultes visiter le musée, par exemple, de Grenoble. Il y a, devant des allégories, il y avait trois femmes, la peinture, la sculpture et l'architecture. C'était du XVIIe siècle, c'était une peinture qui n'est pas connue d'un peintre de l'époque. Il y avait ces trois femmes qui étaient là, qui étaient nues. Il y a trois femmes nues, c'est tout. Mais ils se raccrochaient à ça pour rentrer. Après, je leur ai dit, attendez, elles représentent certaines... La peinture, la sculpture, et vous trouvez ces éléments, ah oui, d'accord, et après ils rentraient dedans. Je veux dire que le fait de ne pas repousser les gens, alors ça peut arriver que des gens n'aiment pas mon travail, parce que ça ne correspond pas à leur sensibilité, ça ne correspond pas à un tas de choses. Alors donc, ce qu'il y a, c'est que ce que je fais, c'est que généralement, je travaille sur le corps humain, d'abord ça peut être un moyen d'accroche, et puis les gens, même s'ils n'y connaissent rien, moi je vois des gens qui passent là vers mon atelier, j'aime bien ça, j'aime bien cette couleur. Ça s'arrête là, alors après, c'est autre chose, quoi.
Justement, ce rapport-là, vous êtes donc dans un garage, il y a quelqu'un qui vient de mettre des bouteilles dans une poubelle, les gens passent,
oui.
et alors, que se passe-t-il entre eux et vous?
Ah ben là,
ils s'arrêtent, ils viennent voir.
Oui, alors il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, surtout quand, il y a des fois, je ferme la porte pour travailler tranquillement. Mais bon, souvent je l'avais ouvert, puis ça que je suis là, il y en a qui viennent taper pour voir ce que je fais. Bon, ça ne me gêne pas du tout. Simplement, parfois, quand je me ferme la porte, c'est parce que je suis concentré sur quelque chose, je n'ai pas envie d'être dérangé, quoi. Mais bon, si je laisse la porte ouverte, ou même je ferme parce qu'il fait froid, tout bêtement, c'est arrivé qu'on me tape à la porte, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Non, les gens, quand on fait des réunions là, de l'immeuble, là, on me présente comme le peintre. Mais ils me connaissent un petit peu. Bon, ça fait déjà un certain temps que je suis là. Donc.
Thank you.
Couleur FM 97.1 avec Jean Murat, et nous avons choisi en hommage à ce peintre poète qu'est Jean Murat l'album Jazz Poète avec Tommy Flanagan au piano dans Mean Street.
À vous entendre, on a l'impression que vous aimez beaucoup les mots. Oui. Vous écrivez sur la peinture, sur d'autres sujets aussi. Pourquoi vous vous êtes pas mis à écrire, que vous avez préférer la peinture?
L'écriture, j'ai fait des nouvelles, j'ai fait des choses comme ça, mais je ne les publie pas. Bon, parce que je pense que c'est plutôt ma concentration se fait surtout sur la peinture. Mon goût, tout ça, va vers la peinture. L'écriture, c'est plutôt pour faire le point, plutôt pour faire un tas de choses. Pour faire le point, par exemple, c'est un peu ce qui se passe là dans ce petit texte que je suis en train de monter, là, pour Rosan Vallon et sa proposition. L'écriture, si ça me plaît bien, j'aime bien écrire dans mon temps, mais c'est pas la première chose à faire. Pour moi, je mets toute mon énergie sur la peinture. Parce que sinon, l'écriture, c'est énorme aussi comme boulot. Là, ce que je vous raconte, c'est que je suis en situation. Hein, le concret est autour de nous. Et c'est pas parce que... Alors ça, moi, j'aime bien. Parce que je fais de la peinture, mais pendant 20 ans, j'ai aidé un ami qui était prof au lycée technique, prof de gym, et qui avait monté une section montagne. Et avec lui, pendant 20 ans, j'ai entraîné des jeunes de seconde, terminale, enfin première et terminale, à faire de l'escalade et du ski alpinisme. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Maintenant, je ne le fais plus pour moi et ma femme, parce que je ne peux plus suivre des gens de 17 ans pour les suivre. Il ne faut pas rêver. Donc... Je me suis occupé aussi de handicapés mentaux. Pendant longtemps, dans l'usine qui existait de l'autre côté, là, et qui a été démolie, je m'occupais de leur faire du dessin. C'était leur bonheur. Ça leur apportait quelque chose au milieu de leurs problèmes, une sorte de bulle où ils se retrouvaient très très bien. J'ai passé de bons moments avec eux parce que c'était quelque chose d'autre. Très naturellement, on peut leur faire plaisir, puis ils nous apportent des choses tout le long. Tout le long, alors, Et puis après, on les... au début, c'est un peu surprenant de travailler avec des gens qui bon, il y avait des schizophrènes ou tout ça. Et donc, il y avait des autistes. Et puis, brusquement, ils découvrent quelque chose. Ça, c'est fantastique de les voir découvrir, puis d'être, pendant deux heures, d'être apaisé complètement. Alors, bon, je faisais ces travaux, j'aimais faire ça à côté aussi, donc je pouvais pas...
C'est ce qu'on appelle l'art-thérapie. Maintenant, il y a beaucoup de peintres aussi qui, entre guillemets, hein, qui s'improvisent art-thérapeutes.
Oui, j'ai pas trop cherché, justement, avec les équipes, parce que à un moment donné, il y avait une jeune fille qui écrivait des nouvelles. Alors, j'avais essayé de proposer des choses pour la faire aller un peu plus... C'était fort intéressant ce qu'elle faisait, comme des petites nouvelles d'une ou deux pages. Et c'était fort intéressant, mais il a fallu lui faire une petite formation pour qu'elle aille un petit peu plus loin dans sa construction. Alors là, il y a eu des débats, parce que les psychiatres ne voulaient pas que j'intervienne, ne voulaient pas que... Bon, j'ai dit, moi, la peinture, ils font de la peinture, je ne fais pas de l'art-thérapie, hein. Surtout pas, parce que c'est pas mon boulot, j'ai pas appris, même si j'ai lu sur l'art, Prince Horn et d'autres qui ont travaillé sur l'art des fous, ce qu'on appelait les fous à l'époque, de fin 19e, début 20e, il y a le musée de l'art brut à Lausanne, que je connaissais bien. Bon, mais bon, je le faisais par curiosité, mais je n'allais pas prétendre de faire de l'art-thérapie ou de soigner des gens avec pour qu'ils soient heureux un moment. Je trouvais que c'était déjà pas mal.
On a l'impression, à vous écouter, que vous avez envie de transmettre.
Oui, si c'est possible, parce que c'est pas toujours évident. Oui, oui, c'est un élément. Je pense que c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est qu'il transmet. Les animaux aussi transmettent. Si on va dans les animaux comme le chimpanzé ou tout ça, ou même d'autres, il y a une transmission qui est limitée. Mais l'humain, c'est parce que l'importance, c'est de transmettre une expérience, un propos à d'autres. Quoi. Ça, c'est... Moi, alors en escalade, c'était tout. Ils savaient que j'étais peintre. De temps en temps, les jeunes venaient, on parlait de peinture, ou ils me faisaient faire leur dissertation aussi. Comme on partait 4-5 jours, et au début, les profs étaient un petit peu réticents, puis après, ils étaient bien contents, parce que les gens qui avaient fait de l'escalade, ils avaient envie de réussir quelque chose dans leur vie. Il y a une sorte d'arrachement à soi-même, la pierre est dure, le caillou est pas sympa, il y a des moments... Et puis il y a quand même des prises de risque. Et je le retrouve dans la peinture, ça. C'est, il y a des prises de risque aussi. Elles sont moins dangereuses, je ne vais pas tomber de très haut. Mais quand même, ça peut être décevant.
Est-ce qu'une prise de risque, c'est également faire de la peinture ou de la gravure, de l'illustration, de poèmes et de
ça,
textes, parce que vous l'avez fait?
Oui, je l'ai fait, mais c'est difficile. C'est difficile parce que lier l'écriture et la peinture, c'est pour ça que j'essaie de... Ce que je fais, mes petits poèmes que je fais, c'est d'essayer de trouver cette énergie des mots. C'est les temporalités de chaque mot, chacun ayant une énergie différente, on a une temporalité différente. Et je travaille plus du tout sur le sens. Quand j'écris ces petits poèmes, je les écris sans savoir... vous lisez ça, c'est même un peu contradictoire avec la grammaire. Même très contradictoire. Mais ça vient à côté de la peinture. Et la peinture, j'essaye aussi de faire les mêmes choses, mais bon, il faut que ça soit accessible. Alors que mes poèmes, ils ne sont pas forcément accessibles.
Mais il y a les poèmes des autres également. Oui. On vous a connu grâce à Jacques Ancet et son livre « Les 24 heures ».
Voilà, exactement. Où j'ai essayé d'accompagner son texte. Et là, j'avais trouvé une solution qui me semblait être dans la même... En suivant ce qu'il avait écrit, en ayant... ces 24 heures, il se passe des choses quand même. Donc en suivant ça, j'ai pu construire un dessin. J'ai recommencé avec Jean Cancet pour autre chose. J'ai retenté, mais c'est toujours... J'ai fait des dessins qui étaient abstraits. J'évitais d'aller faire... mettre un personnage, ça va créer un autre... Si je ne mets pas de personnage, on va avoir des formes géométriques ou des formes gestuelles, mais il y a autre chose qui se passe. Prenez une photo, si vous n'avez qu'une photo d'un paysage ou d'une ville et il n'y a pas d'humain dedans, on n'est pas dans la même... Il y a quelque chose de différent, vraiment très différent. Il y a quelque chose qui va être vivant, et même si un paysage est vivant, il est quand même différent si vous avez un homme ou une femme qui sont à l'intérieur. Moi, je le sens comme ça.
Donc, c'est un exercice difficile.
Oui, je pense que c'est difficile d'illustrer un texte ou de mettre un texte sur une peinture. Les artistes, avec Jacques, on s'entend suffisamment pour arriver à correspondre à quelque chose sur le plan de la sensibilité. Ça permet à ce moment-là de trouver... Je pense qu'il faut un accord entre le peintre et l'écrivain, un endroit où le poète... c'est la vie intérieure, c'est un peu comme dans un couple, ça tient parce qu'il y a une vie intérieure qui fonctionne, qui va ensemble. S'il n'y a pas cette vie intérieure, s'il y a des problèmes, ça se délite petit à petit.
Donc c'est une vie intérieure d'un peintre et d'un écrivain, d'un poète, et chacun a pris son support.
Oui, voilà, exactement. Il faut prendre chacun ce dont on est capable pour que ça corresponde suffisamment pour illustrer, mais j'aime pas, accompagner plutôt, accompagner le texte. Alors parfois, ça marche. Donc pour l'autre, j'ai trouvé une autre solution. C'était encore des textes... C'était des textes de Jacques qui l'avait écrit. Et c'était un éditeur qui nous avait demandé ça. Quand j'avais trouvé une solution, bon... Dans le midi, je ne sais plus où c'est passé, ça. Parfois, je fais des choses... Je fais 36 choses à la fois aussi, ça arrive.
Pour en revenir à votre écriture, vous écrivez donc d'une façon un petit peu... Enfin, comme les surréalistes écrivaient l'écriture automatique. Et ça se rapproche un peu aussi de votre peinture, puisque quand vous peignez, vous ne savez pas ce que vous allez faire, ça s'enchaîne de façon un peu automatique. C'est la même vision, c'est la même façon de faire.
Il y a des éléments, oui, qui viennent de... Ça, surtout les surréalistes, en plus, j'étais assez... Ça m'intéressait, c'est resté en moi, ça m'a marqué. Ah ben là-dessus, j'ai énormément d'influence. Je parlais du Tintoret, mais de Matisse aussi. Quand on voit le bleu et le rouge ici, on peut imaginer. Et les surréalistes, je ne crains pas du tout cette façon aussi de faire. Je ne le fais pas directement, mais c'est vrai que tous les artistes, je pense, écoutent ce qui se passe aussi à l'intérieur. Où les mots vont venir, c'est l'inconscient qui va vous les pousser. Ce titre Incidence, c'est venu comme ça. Alors, c'est complètement surréaliste si on veut le prendre sous cet aspect-là, parce que ça peut donner des références. Une forme est autonome. On peut faire toutes sortes de choses avec. Il faut avoir une petite expérience de vie. Ce qui fait la force de Rimbaud, c'est qu'il avait déjà fait une expérience de vie très jeune, qui était ce qu'elle était, peut-être, mais qui lui a permis d'écrire ses poèmes. Et je pense que ça, c'est... On peut... Alors, des gens comme Rimbaud ont fait ça avant 20 ans, mais on peut le faire à n'importe quel âge, trouver des choses fortes à n'importe quel âge. C'est pour ça que c'est excès de vie qui passe, il faut le capter.
Et vous pensez que les peintres actuels, contemporains, n'ont pas assez de recul en général, ou ils ne savent pas d'où ils viennent? Chez vous, vous venez de l'origine, je vais dire, des temps, et puis vous venez jusqu'à maintenant, et même déjà au-delà, vous prévoyez déjà le futur. Et le contemporain, en général, n'a pas de recul.
Mais il est trop soumis à toutes les idéologies qui sont en cours. Quand vous prenez, par exemple, Jeff Koons ou d'autres que je connais bien, comme Damien Hirst aussi. Et... Bon, ce qui compte pour eux, on est dans une société où la finance compte énormément, le fric compte énormément. Pour eux, leur but, c'est d'être le plus riche possible, de faire n'importe quoi. Et de le vendre le plus cher possible, c'est ça qui compte. C'est pas de se poser des questions sur la vie des uns et des autres. Ça va même jusqu'à la provocation dans cette façon de se présenter. Alors ça, c'est pour les ceux les plus importants. Et puis vous en avez d'autres qui essayent de suivre. Par exemple, la dérision est quelque chose qui marche très fort parce qu'on peut tout mettre en dérision très facilement et ça mène où? Bon, quand Sophie Calle ou d'autres ont fini, quand elle a envoyé ses lettres à New York puis qu'elle les récupère, je veux dire, bon, ce mouvement-là. Moi, je peux m'en amuser. Moi-même, quand je fais des blagues avec des copains, pourquoi pas, en fait. Mais je veux dire que ça va pas bien loin. On est un peu chez l'adolescent boutonneux, là. J'ai un peu cette sensation-là, il y a des moments. Il y a un manque de culture, j'allais dire, derrière, ou volontairement. Bon, pourquoi pas, hein. Ce qui me gêne actuellement, c'est pas que les gens fassent toutes sortes de choses. C'est que, par exemple, la peinture est rejetée, est remise sur le côté. Pas rejetée complètement, parce qu'il y a des gens... Qui peignent, mais alors, la peinture qu'ils font, c'est trois coups de... Moi, je le fais, ça m'arrive, en 4-5 coups de pinceau, vous faites un personnage dans telle ou telle position, bon, pourquoi pas, ça se fait en 10 minutes, ça se fait en une heure ou une journée, puis c'est fini. Surtout à la Biennale de Lyon, j'avais vu des peintures qui étaient intéressantes comme ça, mais c'est très vite fait. Au bout d'un moment, il n'y a pas assez de fond pour qu'elles tiennent dans le temps. La transmission peut se faire s'il y a quelque chose à transmettre. Si c'est la dérision, au bout d'un moment, ça va. La transgression, tous ces éléments-là,
Bon, je me dis, il faut arrêter, il y a autre chose à faire. Sur tout le monde où on est, ça n'a pas changé. J'ai lu la vie de Clémenceau l'autre fois, bon, ça n'a pas changé. Si on remonte dans le temps, chez les Borgia et tout ça, c'était le cirque. Et je veux dire que actuellement, c'est pareil, mais il faut... À un moment donné, il y a un dominant dans une civilisation qui va permettre... Même Louis XIV, il a fait des gars, il a fait n'importe quoi, mais il a été... Comme le roi Soleil, il a laissé certaines choses. Bon, on peut en discuter, ça peut plaire, pas plaire. Ça. Mais je veux dire, il avait construit quelque chose. L'Église, entre le XIIe, XIIIe et XIVe siècle, avait construit quelque chose. C'était très fort, ils inventaient tout. Il y avait une densité. Après, ça a pris d'autres dimensions. Les partis politiques, la Révolution française aussi a provoqué le XIXe, XXe, c'est une des suites de la Révolution française, si on veut. Il y a une nouvelle civilisation qui a construit sur plan technique, qui a construit énormément de choses.
Alors comment vous entrez dans ce monde au niveau de vos expositions, par exemple?
J'en fais peu parce que, d'une part, comme j'ai peu de relations... Alors j'ai des galeries qui viennent me voir, qui au bout de 5 minutes, trouvent intéressant, mais ils me disent « ça va pas se vendre ». C'est vite, ben oui, parce que dernièrement j'ai une galerie qui est venue, là, ils étaient deux, donc et au bout d'un moment, ils ont dit non, votre travail, ça ne va pas passer, c'est trop fort, c'est un peu comme de l'alcool brut, quoi. Elle dit, ben oui, si les dessins que j'ai en haut dans mes cartons, ils les ont regardés, évidemment que je ne fais pas de concession. Je ne vais pas faire de concession à un regard qui veut quelque chose pour décorer, par exemple, sa maison. Et dernièrement, j'avais sorti cette toile-là, j'ai des gens qui sont passés, qui avaient vu mes travaux chez d'autres personnes, qui voulaient ces travaux-là. Quand ils ont vu tout mon travail, oh, on va acheter cette toile. Alors moi, je me dis, bon, bah, tant mieux. Et depuis, plus rien du tout. Parce que, bon, ils ont eu... j'ai su hier par une personne, ils ont eu peur d'eux-mêmes face à ce travail-là. Ils n'avaient jamais abordé la peinture sous cet aspect-là. Ils voyaient une peinture décorative.
Parce qu'on s'interroge devant vos tableaux. Ça peut être 10 ans après, on est toujours à s'interroger, changer de clé, parfois de lecture.
Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est un peu le but du travail aussi, c'est que ça interroge un petit peu le spectateur, que ça ne laisse pas indifférent. Quand vous êtes... Moi, je vois les gens qui rentrent à la chapelle Sixtine à Rome, il y a des gens qui ne connaissent rien, mais ils sont quand même fascinés, quelque part, il se passe quelque chose. Dans ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre du Michel-Ange chez eux. Ça n'a rien à voir. Alors ça, bon, si on prend ce problème-là, c'est qu'effectivement, je fais de temps en temps quelques expositions. J'en avais fait une à Marnan. Je l'avais en vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'en ai fait une... de temps en temps, je fais comme ça une expo. L'année dernière, donc, j'avais mis une toile à l'ancien musée de Grenoble de 9 mètres de long. Donc c'est un triptyque, parce que là, je peux faire des toiles de 3 mètres. Donc... Ça me laisse quand même de la place. Donc, bien souvent, ben, j'ai quelques collectionneurs qui me suivent, qui de temps en temps me prennent une toile ou des choses comme ça. Mais comme ils en ont déjà pas mal, ils en prennent de moins en moins, évidemment, parce qu'ils ont des murs et il faut pouvoir... Donc, j'ai quelques collectionneurs. Et puis, autrement, ben non, les galeries, j'ai laissé filer. J'accepte. Je fais mon travail, ça me gêne pas. Ce qui compte, c'est que j'avance dans mon travail. C'est pas de... Thank you.
Couleur FM 97.1 avec Jean Murat. Pour terminer, nous avons entendu What's New de l'album du même nom avec McCoy Tyner au piano.
Est-ce que justement vous avez une vision de l'évolution de votre travail ou c'est, ça se fait comme ça au jour le jour aussi?
Bon, c'est au jour le jour. Parce que là, pour le moment, là, je suis parti sur des petits travaux un petit peu. Je me dis, c'est vrai que je fais toujours des grands travaux. Et je me dis, les gens, bon, ben, même s'ils veulent le mettre chez eux, ils ne vont pas pouvoir, parce qu'on n'a pas des appartements si grands que ça. Donc, m'oblige à repenser un peu mon travail, de repartir sur des petits travaux. Ce que j'appelle, c'est ça, les petits travaux. Ou c'est ce genre de choses, pour essayer de remettre en question un petit peu. Donc, faire du petit travail, ça permet de revoir un peu ce que je fais, de ne pas accepter sans arrêt. Bon, ça sera toujours un peu la même chose, j'imagine. Enfin bon, les évolutions se font tout doucement.
Et donc, pour terminer, on peut parler de... On en a un peu touché un mot, mais votre futur maintenant, futur projet, je vais dire plutôt. Ouais. Quels sont votre projet ou vos projets?
Ben, en ce moment, j'essaye un petit peu de faire connaître le travail que je fais, même si, par exemple, par ce petit texte que j'essaye de faire, là, sur les invisibles de la société, moi pour le moment j'ai envie de continuer de peindre. L'écriture ça me gêne un petit peu parce que je vais y passer j'ai envie par exemple à côté le matin je peins souvent 7h à 10h du 11h du matin, l'après-midi j'écris en ce moment, mais il y a d'autres où je peux aussi revenir peindre si j'ai une idée qui et je manque j'étais pas mal occupé en ce moment et je manque un peu de continuité dans mon travail, donc je cherche un petit peu à avoir un peu plus de revenir à une continuité ne serait-ce que d'être dans l'atelier, pas faire grand chose. Il y a des moments je sais pas qu'est-ce que je vais faire, bon je reste, je regarde, je réfléchis, je fais un petit dessin, donc pour ouvrir vers autre chose. J'ai pas de projet sinon de peindre, hein. Donc avec l'idée de se faire un peu connaître pour essayer de négocier quelques toiles quand même, parce qu'il faut casser la croûte, pour dire les choses comme elles sont. Mais bon, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant mieux aussi. Bon, je veux dire que ça veut dire que je peins, c'est une sorte de d'aventure. Et puis, une fois que vous êtes dedans, il faut avancer, autrement, ça s'effondre tout si vous arrêtez.
Puisque vous voulez vous faire connaître, déjà, on peut commencer par un site.
Oui.
On peut le donner.
Il y a d'abord vous qui me faites connaître, ne serait-ce que par cette interview. Et puis le site, c'est http www.murapeintre.fr.
Et Murat, M-U-R-A-T.
Oui, voilà. Sinon, il y a quand on est sur le site, il y a moyen de passer sur un autre site que j'ai fait, où j'ai marqué blog et vidéo, donc ça permet d'aller voir ou des textes ou des expositions que j'ai faites, ou de différentes des choses que j'ai mises comme ça un petit peu pour faire, il y a quelques poèmes, il y a des choses comme ça
et surtout beaucoup de réflexions.
Oui,
ça c'est très très important justement.
Oui, parce que bon, pourquoi cette peinture là et pourquoi ce type de couleur, pourquoi qu'est-ce qui ça, a priori on peut dire ça avance pas beaucoup, mais bon, il y a un exemple assez simple, je vais pas me comparer à lui, mais c'est Giotto. Giotto, 1290-1300, commençait à mettre en place sa perspective. Cette distance que l'homme prenait entre Dieu et lui-même, quoi. Bon, c'est, la perspective vient de là, d'ailleurs. Il mettait un petit peu de perspective, mais si on s'amuse à tracer les lignes de ces bâtiments, ça aboutit à aucune ligne d'horizon. C'est un peu au-dessus, un peu en dessous. Puis il y a les objets qui sont légèrement décalés dans l'espace aussi, dans la profondeur. Un buisson, un petit rocher, des choses comme ça. Et alors arrivé, il y a donc lui, il parlait de la perspective qui a été mise en place que vers 1420 par Alberti et Brunelleschi. Là, vous avez Alberti qui brusquement a mis en place la perspective avec la ligne d'horizon, les points de fuite et tout. Et là, du coup, Piero della Francesca a pu construire toutes ces. Donc on voit. On peut avoir l'idée que, actuellement, je suis un peu un primitif. Je reprends l'idée de Cézanne qui disait un primitif, mais parce qu'il avait peut-être bien compris l'époque aussi, intuitivement, comme ça. Il était le primitif de quelque chose, et moi, je le suis un petit peu quand il dit qu'il faut être une plaque sensible pour entendre le monde, c'est-à-dire surtout pas réfléchir, recevoir. Si on réfléchit, réfléchir, c'est le miroir qui réfléchit. Et donc, tandis que là, il ne faut pas réfléchir, il faut vraiment être la plaque sensible qui reçoit.
C'est une belle,
belle conclusion.
Belle conclusion.
Bien. Merci.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Jean Murat.
Merci Jean Murat.